Un exploit en rugby. Les Bleus ont répondu présent pour gagner le tournoi des Six Nations. Un grand moment, notamment pour les Calédoniens du 15 de France et leurs familles dans les gradins du Stade Saint-Denis. La météo avec un épisode pluvieux qui touche la plus grande partie du territoire. Depuis vendredi, 150 mm de précipitations sont notamment tombées en l'espace de 48 heures dans le sud. Au palais de justice de Nouméa, nouvelle affaire de meurtre devant la cour d'assises. Dès demain, un homme de 51 ans sera dans le box des accusés pour un coup de couteau mortel dans une bagarre lors d'un mariage à Canala. 134 ans de présence des Chandang en Nouvelle-Calédonie. Une commémoration se déroulait ce dimanche matin à Nouméa dans le quartier asiatique. La F1 avec la victoire de Lando Norris sur le premier Grand Prix de la saison en Australie sous la pluie de Melbourne. En Calédonie, ils sont venus à bout du parcours XL du Swimrun Volvic. Julien Delrieux et Alexandre Bressy s'imposent avec plus de 4 heures d'effort dans cette épreuve mêlant natation et course à pied. Les conséquences des émeutes à Nouméa. À la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Sonia Lagarde, le maire de la ville, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Info Weekend pour tout savoir de l'actualité en Calédonie, en métropole et dans le monde. À la une de l'actualité, cet exploit en rugby, le tournoi des Six Nations et le triomphe des Bleus.
Performance, dépassement de soi, passion, entrez dans la mêlée des pages spéciales tournoi des Six Nations sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT. OPT, le monde à portée de main.
Et pour son dernier match du tournoi des Six Nations 2025, devant près de 80 000 spectateurs à Paris, le 15 de France a battu l'Écosse 35-16. Une victoire qui permet aux Bleus de remporter ce tournoi des Six Nations, Léo Fichot.
Et parmi les Bleus qui ont brillé, ce matin on retrouve Yoram Moefana, auteur de 2 essais et élu homme du match, de réalisation qui porte à 6 le nombre d'essais marqués sous le maillot tricolore par ce joueur qui est né, on le rappelle, à Nouméa et originaire de Futuna. L'ailier de l'Union Bordeaux-Bègles n'a pas caché sa fierté au micro de notre correspondant à Paris, Xavier Robert.
Ouais, très heureux de pouvoir gagner cette coupe. On a loupé un match contre l'Angleterre, donc après on a eu une semaine de récup qui nous a permis de se régénérer et de venir avec des intentions pour bien terminer ce tournoi. Avec des joueurs exceptionnels comme ça dans le groupe, c'est parfait. Je me dis que ce serait gâché de ne pas se libérer et jouer et prendre du plaisir avec eux. Il y a beaucoup de super joueurs dans l'équipe et je pense que l'équipe va continuer à travailler pour performer et on a à cœur de le faire.
Et plusieurs membres de la famille de Yoram Moefana, notamment sa compagne, sa petite-fille aussi, assistaient à la rencontre dans les gradins du Stade de France. Une présence et un soutien qui sont importants pour le natif de Nouméa.
Je le remercie beaucoup parce que sans leur soutien, je ne serais jamais arrivé à là. Et je suis le plus heureux si je les rends fiers. Et aussi, j'essaie de toujours donner le meilleur de moi-même pour les rendre fiers. Il y avait ma compagne et ma fille qui étaient venues, donc ça me fait beaucoup plaisir de les avoir, et ainsi que ma famille. Après, toute ma famille n'a pas pu se libérer pour venir, mais en tout cas, je suis très heureux qu'ils soient là et qu'ils me supportent tout le temps.
Et Yoram Moefana et les Bleus terminent donc en tête de ce tournoi des Six Nations devant l'Angleterre et l'Irlande. On notera également que les moins de 20 ans ont remporté eux aussi leur tournoi. C'est la première fois que la France réalise ce doublé. Place désormais aux Françaises qui débuteront le tournoi des Six Nations le week-end prochain face à l'Irlande.
Jusqu'au 15 mars, suivez le tournoi destination sur Radio Rythme Bleu avec l'OPT.
Rendez-vous sur notre site www.opt.nc pour découvrir l'ensemble de nos offres. L'OPT, le monde à portée de main.
L'actualité en Nouvelle-Calédonie avec un épisode de précipitations qui perdure depuis vendredi sur une grande partie du territoire. Et le temps va rester maussade pour le début de semaine prochaine avec une vigilance jaune, forte pluie, orage encore en vigueur ce soir. Les précisions de Julien Leduc, prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa.
Pour cette nuit, on va garder quand même un temps globalement pluvieux, notamment sur les Loyautés, la côte est et l'extrême sud. On devrait avoir encore localement des fortes pluies, voire même par endroits de l'orage. Sur l'ouest, il y a eu des averses qui ont été fortes cet après-midi. Alors pas trop sur Nouméa, mais certains endroits, il a bien plu. Ça devrait se tasser un peu dans la soirée. Par contre, ailleurs, on attend toujours pas mal de pluie. Et puis le temps va rester pluvieux encore demain. Demain, c'est encore un temps humide et instable qui domine. Et ce n'est qu'à partir, on va dire, plutôt de mercredi. Mardi, c'est encore humide. C'est plutôt en seconde partie de semaine qu'on aura un temps quand même plus sec qui devrait s'installer, mais il va donc falloir patienter un petit peu encore. Alors, au niveau des pluies, on a eu des cumuls quand même importants, surtout du fait de la durée de l'épisode. C'est surtout sur le sud, hein, ces dernières 24-48 heures où il a le plus plu. Sur les 48 dernières heures, on a des cumuls entre 150 et 250 mm hein, sur le sud, et même sur les Doyautés, où on a eu des très fortes averses hier et avant-hier. Ailleurs, les pluies sont plus modestes, mais par contre, l'ensemble du territoire a été globalement bien arrosé.
Julien Leduc, prévisionniste au Centre Météo France de Nouméa, qui répondait à Kélinda Boicou. Et on rappelle par ailleurs que sur nos routes, ces précipitations ont notamment provoqué un éboulement dans la nuit de vendredi à samedi dans le col des Roussettes, entre Bourail et Wailou. Une partie de la chaussée est d'ailleurs toujours obstruée. Un balisage a été mis en place. La circulation se fait toujours temporairement sur une seule voie sur la partie de la route concernée, le temps des travaux de déblayage. Des perturbations, cette fois, pour le trafic aérien domestique. En ce début de week-end, la compagnie Air Calédonie a connu deux problèmes distincts. Une panne technique sur un appareil amarré, provoquant des reports de vol entre Nouméa et La Roche, mais aussi à Lifou, cette fois, l'absence d'un agent habituellement présent pour pouvoir permettre au planning d'être tenu. Un seul appareil était en exploitation durant le week-end. Un retour à la normale est espéré pour demain, alors que trois vols ont été annulés en ce début de week-end. Notez d'ailleurs que notre invité du matin, demain, sera Samuel Népéoun, le membre du gouvernement en charge notamment des transports aériens domestiques, mais aussi des infrastructures portuaires. Une interview à suivre en direct sur notre antenne ce lundi à partir de 7h30.
RRB, 17h52.
L'heure de voir de quoi la semaine qui vient sera faite. Elle s'annonce dense, notamment sur l'actualité institutionnelle, pardon, Léo Fichaud.
Dès demain, le président du gouvernement, Alcide Ponga, accueillera au siège de l'exécutif une délégation des présidents du Conseil économique, social, environnemental et régional de France et des Outre-mer. Le lendemain, il présentera aux côtés de Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge notamment de l'économie, le plan de reconstruction et de refondation lors d'une séance plénière consacrée au devenir des CESE au sein de l'hémicycle de Province Sud. Ce lundi après-midi, le président du gouvernement accueillera cette fois le ministre chargé des affaires politiques à l'ambassade du Japon en France.
Et plusieurs rendez-vous aussi cette fois au boulevard Vauban.
Les élus du Congrès sont convoqués demain après-midi pour examiner le projet de loi du pays portant diverses mesures en matière de régulation des marchés. Mardi, la commission plénière du Congrès se retrouva pour examiner le projet d'acquisition de deux nouveaux appareils par la compagnie internationale Air Calin. Jeudi, c'est la commission permanente du Congrès qui examinera sept projets de délibération, dont celui déclarant l'urgence climatique et environnementale en Calédonie et définissant aussi la stratégie calédonienne du changement climatique.
Notez encore que mercredi matin à Nouméa, le conseil municipal junior fera sa rentrée à l'hôtel de ville. Au chapitre politique, les Républicains calédoniens tiendront un mardi soir une réunion publique au Mont d'Or à partir de 18h30 à la salle des communautés du Vallon d'Or. Le FLNKS organise lui un rendez-vous samedi prochain dans la salle omnisport de Lanzvata. Au chapitre judiciaire à présent, la suite de la première session d'assises de l'année et dès demain, une nouvelle affaire de sang qui sera jugée.
En effet, une nouvelle affaire de meurtre au palais de justice. Les faits se sont déroulés en marge d'un mariage. C'était le 20 août 2022 à la tribu de Nonoué à Canala. Le récit de l'avocat général Philippe Faisandier.
La victime qui n'était pas invitée à ce mariage s'y est présentée et puis a cherché querelle un certain nombre d'invités. Il se trouve que celui qui allait devenir l'accusé, voyant ça, a voulu s'interposer. Malheureusement, il s'est interposé en faisant usage d'une baïonnette qu'il avait avec lui, alors une baïonnette qui lui servait à découper les poulets pour le mariage. Et comme c'est lui qui le dit, il avait un peu bu, lui aussi. Et il a eu une réaction qui a complètement outrepassé la réaction qu'il aurait eue s'il avait été à jeun. Donc il regrette son geste, mais en séparant donc les deux belligérants, eh bien, il a asséné un coup de baïonnette à la victime. Et ce coup de baïonnette s'est avéré mortel.
L'affaire est prévue pour être jugée sur deux jours.
Dans un tout autre registre, la troisième édition de la Semaine des métiers du tourisme s'ouvre ce lundi. Elle se déroulera jusqu'au 23 mars. Sud Tourisme Nouvelle-Calédonie organisera notamment plusieurs rendez-vous. Jeudi et vendredi, les élèves du BTS Tourisme du lycée La Pérouse seront accueillis par les offices de tourisme de Bourail et de Nouméa. Au chapitre culturel, la Semaine de la francophonie et de la langue française a débuté hier avec la dictée du Pacifique. Elle continuera donc la semaine prochaine, Léo Fichot.
Avec notamment mercredi soir à la bibliothèque Bernheim, actuellement délocalisée en haut de la place des Cocotiers, une soirée des lauréats du concours Le Pilou des mots, ainsi que la célébration des 40 ans de l'Alliance Champlain, soirée qui se fera en présence de l'invité d'honneur de cette semaine. Il s'agit de Julien Barré, poète et linguiste.
Je suis très heureux d'être ici. J'ai jamais été aussi loin de chez moi. Je suis ravi de pouvoir être invité et que mon métier consiste à animer des événements, aller à la rencontre des gens, parce que j'écris des livres, parce que je réfléchis à la langue française, à toutes ces formes-là. J'attends vraiment de m'enrichir de nouvelles expressions, de nouveaux mots. Mon but, c'est de discuter avec le plus de gens possible et puis écouter parler les gens, entendre plusieurs langues différentes. Puis je vais rencontrer des slameurs et des slameuses que Paul Wameau m'a recommandé.
Un événement qui sera donc organisé par l'Alliance Champlain. La semaine de la francophonie sera également relayée mercredi et vendredi à la Maison Cellière. Elle sera également au cœur de notre magazine citoyen. Ce sera mardi midi sur Radio Rythme Bleu.
Culture toujours, le week-end prochain, le centre commercial Hyper-Rue de Païta accueillera l'Hyper-Bulle Manga Festival. Ça se déroulera sur 2 jours. Notez encore cette grande date demain, le 17 mars, la communauté d'origine irlandaise de Nouvelle-Calédonie célébrera la Saint-Patrick. Enfin, une opération de solidarité, la campagne SMS 2025 des petits pansements du cœur débute demain. Elle durera jusqu'au 21 mai. L'objectif est de dépasser les 14 000 SMS en envoyant don au 3677 pour aider à réaliser les rêves des enfants atteints de maladies chroniques. Un dernier rendez-vous sur l'antenne d'RRB. À la fin de ce journal, ne manquez pas la rediffusion du magazine Transparence. C'est Sonia Lagarde, le maire de Nouméa, qui était vendredi midi l'invité d'Elisabeth Noir, une émission que vous pouvez également retrouver dans son intégralité en podcast audio et vidéo sur notre site internet www.rrb.nc.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. À Nouméa, c'est le 100.4.
Dans le reste de l'actualité, le 134e anniversaire de l'arrivée des Tchandang en Calédonie était célébré ce dimanche matin. À Nouméa, une commémoration était organisée dans le quartier asiatique. C'était l'occasion de se recueillir et de se rassembler pour les descendants de la communauté vietnamienne établie sur le territoire. Pour rappel, les premiers travailleurs vietnamiens étaient arrivés par bateau en Calédonie le 12 mars 1891. Les précisions de Patrick Guillon, le président de l'Amicale vietnamienne de Nouvelle-Calédonie.
C'est une commémoration avec une saveur un peu spéciale, je veux dire. C'est-à-dire que la dernière Tchandang nous a quittés en 2024. Donc, encore plus que jamais, cette commémoration, c'est notre devoir de mémoire envers tous nos anciens que nous devons maintenir pour que leur histoire ne soit pas perdue, pour que leur contribution à l'édification du pays soit connue. Les Tchandang sont des travailleurs engagés à l'époque de l'Indochine, surtout des Tonkinois, qui étaient sur des contrats de 5 ans pour venir travailler en Nouvelle-Calédonie. Les travailleurs Tchandang étaient surtout dans les mines de nickel et de chrome, mais aussi dans toutes les constructions de routes et d'infrastructures. Au bout de 5 ans, ils avaient le choix de renouveler leur contrat ou de repartir. Et un nombre d'entre eux sont restés. Et c'est de ces travailleurs-là que la communauté calédonienne d'origine vietnamienne que nous connaissons aujourd'hui puise ses sources. C'est important parce que, comme nous le précisons à chaque célébration, le dicton vietnamien c'est Uống nước như uống nguồn, ce qui nous rappelle lorsqu'on boit de l'eau, il faut se souvenir de sa source.
Une cérémonie qui se déroulait notamment en présence de la présidente du Congrès, Velma Falaeo, du président de l'Association française des maires de Nouvelle-Calédonie, Pascal Vittori, ou encore du maire de Nouméa, Sonia Lagarde.
On est dans un pays où cette diversité ethnique, d'abord, en fait sa richesse. Et c'est des endroits comme ce qu'on célèbre tous les ans, là, le 16 février, pour les Indonésiens, eh bien, c'est pareil. C'est une valorisation d'une communauté qui est arrivée dans des conditions difficiles, hein, pour chercher un mieux-être par rapport où ils étaient et qui ont travaillé dans des conditions absolument éprouvantes et difficiles et qui ont fait souche ici. Et ils font partie, ils sont une composante de toute cette société pluriethnique calédonienne. Et c'est important de connaître l'histoire. Parce que sinon, on passe à côté de beaucoup de choses en termes de compréhension des uns et des autres.
Une cérémonie qui se déroulait au pied de la statue des Tchandang dans le quartier asiatique à Nouméa. Il est 18h. Emmanuel Macron réussira-t-il à mettre la pression sur la Russie ? L'actualité nationale et internationale, c'est juste après la pub.
Savez-vous qu'un lave-vaisselle utilise de l'énergie surtout pour le chauffage de l'eau et peu pour le moteur de la pompe de vidange? Les programmes à faible température comme Eco permettent de diminuer en moyenne de 5% la consommation d'électricité.
Retrouvez toutes les astuces Eco-Conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie. Jusqu'au vendredi 4 avril, Tradition Thaïlande vous invite à jouer pour tenter de gagner une carte VIP pour vous offrir des heures de bien-être et de détente. Un cadeau exceptionnel d'une valeur de 150 000 francs. Pour participer, c'est simple. Envoyez « chance » au 4020 dès maintenant. Plongez dans l'authenticité thaïlandaise au Faubourg Blanchot avec une sélection de 16 massages allant de 20 minutes à 2h30. Un moment unique de détente vous attend chez Tradition Thaïlande. Réservation en ligne, bon cadeau. Tradition Thaïlande vous accueille au 11 route du Port des Pointes et sur Facebook. Téléphone 43 04 20. Alors, pour tenter de gagner des heures de bien-être, envoyez « chance » au 4020. Tirage au sort le vendredi 4 avril à 14h. 371 francs par SMS sur Radio Rythme Bleu, il n'y a pas de jour sans jeu.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Et la suite du journal avec vous, Mickaël Januski.
10 jours après s'être adressé aux Français dans une allocution, Emmanuel Macron reprend de nouveau la parole au sujet de la guerre en Ukraine. Cette fois, dans la presse quotidienne régionale, notamment La Voix du Nord, Ouest-France ou encore Le Parisien, que ce soit sur l'envoi de troupes en Ukraine ou sur le service militaire, Emmanuel Macron précise sa pensée. Jacques Serret du service politique d'Europe 1.
Emmanuel Macron affirme se passer de l'avis de Vladimir Poutine quant à l'envoi de troupes sur le sol ukrainien. L'Ukraine est souveraine, insiste le chef de l'État. Si elle demande à des forces alliées d'être sur son territoire, ce n'est pas à la Russie d'accepter ou pas. Le président est donc à la manœuvre avec son homologue britannique Keir Starmer et il s'agira, je cite, de déployer quelques petits milliers d'hommes par nation dans des points clés pour faire des programmes d'entraînement et montrer notre soutien dans la durée, anticipe Emmanuel Macron. Le locataire de l'Élysée se félicite au passage de l'engagement des Français sur cet enjeu. Nos compatriotes sont lucides sur la menace, juge le président qui promet dans les prochaines semaines une refonte du service national universel, le SNU, pour qu'il corresponde aux besoins de la nation et aux priorités que nous avons identifiées. Mais pas question toutefois de revenir au service militaire obligatoire. Ce n'est pas une option réaliste, conclut le chef de l'État.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Plusieurs annonces faites par le président de la République, Emmanuel Macron donc. Mais qu'en pensent nos compatriotes? Le reportage dans la région de Strasbourg de Noé Chaillot.
Dans les rues de Strasbourg, ces Alsaciens se questionnent ce matin après la prise de parole du président. Théo, un étudiant de 19 ans, est assez inquiet.
Ce serait bien de continuer à aider, mais si c'est pour nous mettre nous-mêmes plus dans l'embarras, je ne sais pas si c'est forcément une bonne solution. Je pense que comme tout le monde, j'aurais peur. La guerre, c'est un truc que personne ne voudrait avoir.
Le président a également évoqué que si l'Ukraine demande à des forces alliées d'être sur son territoire, Moscou n'avait pas son mot à dire. Des paroles qui peuvent être lourdes de conséquences pour ce Strasbourgeois.
Ça peut mettre en défaut les relations qu'on a avec la Russie et les États-Unis. Et étant donné que ça ne nous regarde pas tant que ça, je ne comprends pas trop l'aspect stratégique à s'en mêler. Si on commence à s'embrouiller avec les plus grosses puissances, ça peut mal tourner pour nous.
Mais certains Alsaciens, conscients des risques, maintiennent que notre pays doit coûte que coûte prêter main forte à Kiev.
Je pense qu'on se doit à l'entraide. Si un jour ça nous arrive là, voilà, j'aimerais bien que c'est qu'on m'aide. Hein.
C'est un besoin fondamental d'aider son prochain. Je pense que c'est important. Après, par rapport à ce qui est de la guerre, ça fait quand même peur de l'autre côté. Quoi.
Une autre interrogation pour ces Alsaciens, quelle va être la refonte du service national universel dans les prochaines semaines?
Le reportage de Noé Chaillot à Strasbourg pour Europe 1. Bruno Retailleau va-t-il démissionner? Le bras de fer entre Bruno Retailleau et l'Algérie s'intensifie. Dans les colonnes du Parisien, le ministre de l'Intérieur menace en effet de démissionner. Celui qui est aussi candidat à la présidence des Républicains laisse entendre qu'il est prêt à mettre sa position de ministre dans la balance, notamment dans le cas des individus sous OQTF et des ressortissants algériens dangereux sur le sol français. C'est dans ce contexte que des policiers nationaux ont été victimes d'une attaque au couteau à Cannes ce matin pour nous. L'assaillant est un Marocain de 21 ans qui a crié à la Ouakbar. Pas de blessés, mais évidemment, les agents sont sous le choc. L'homme interpellé faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Notez que cette semaine, l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos sera Manuel Bompard, le coordinateur de la France Insoumise. Une émission que vous retrouverez sur l'antenne d'RRB demain soir. Ce sera juste après Info Soir, votre grand journal de 17h45. Il est 18h passé de 5 minutes. Une dernière pause publicitaire avant de voir tout le sport.
RRB. Nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La suite du journal et tout le sport, Mickaël Juneski.
Et nous avons évoqué dès le début de cette édition le rugby, ce succès du 15 de France face à l'Écosse, 35-16. Et grâce à cette victoire, les Bleus se sont imposés dans ce tournoi Destination 2025. Les Bleus qui devancent l'Angleterre et l'Irlande. Autre grand événement sportif ce dimanche, le début du championnat du monde 2025 de Formule 1.
Vos stations Shell et Pacifique, partenaires des pages spéciales Grand Prix de Formule 1 sur Radio Rythme Bleu.
Et le tout premier rendez-vous de la saison en Australie a été remporté par Lando Norris, Léo Fichot.
Le Britannique, parti en pole position, a dû lutter pendant les 57 tours, jusqu'au bout, avec le quadruple champion du monde en titre Max Verstappen, qui a donc terminé deuxième à moins d'une seconde de Lando Norris. Notre Britannique complète le podium, il s'agit de George Russell. On notera également la très belle performance du rookie Kimi Antonelli, qui termine cinquième. Charles Leclerc termine huitième. Lewis Hamilton, dixième. Et puis côté français, Pierre Gasly termine à la 11e place, Esteban Ocon à la 13e place alors qu'il était parti de la 19e position. En revanche, mauvaise première expérience en Formule 1 pour le rookie Isaac Hadjar qui, bien placé sur la grille à la 11e place, n'a finalement pas pris part au Grand Prix d'Australie. Au volant de sa Racing Bull sur une piste détrempée, le pilote tricolore est parti à la faute dans le tour de formation. On l'écoute.
Je suis juste gêné et... désolé pour l'équipe. De toute façon, les tours de mise en grille, j'ai vu que les conditions elles étaient compliquées, mais c'est pas pour autant que je l'ai mise dans le mur. Les conditions elles étaient meilleures au moment de repartir. Et je savais que le tour de formation, c'est là où il fallait mettre le plus de température, le plus de travail tu fais, mieux c'est. Et puis voilà, je m'en reviens pas, quoi.
D'autres rookies ont dû abandonner sur ce circuit de l'Albert Park à Melbourne suite à des accidents. Jack Doohan dans le premier tour, mais aussi Liam Lawson et Gabriel Bortoleto dans les 48e tours. Les expérimentés Carlos Sainz et Fernando Alonso sont aussi partis à la course. Ils n'ont pas terminé ce Grand Prix.
C'était votre page spéciale Grand Prix de Formule 1 parrainée par Shell et Pacific. Shell, un nouveau partenaire innovation de la Scuderia 2025. Sélectionnez le meilleur pour votre véhicule.
Les sports mécaniques toujours avec le deuxième Grand Prix de la saison de MotoGP. Ça sera demain matin pour nous, ça se passera en Argentine.
Et comme en Thaïlande, lors du premier Grand Prix de la saison, les frères Marquez partiront côte à côte sur la première ligne. Demain matin, ce sera à 5h ce Grand Prix d'Argentine. Donc en pole pour Marc, en deuxième position pour Alex. Joan Zarco s'élancera de la troisième position. Fabio Quartararo de la septième. Je rappelle que sur la course sprint, Marc Marquez s'est imposé devant son frère. Pecco Bagnaia complète le podium. Très bonne performance du français Joan Zarco qui a terminé 4e, Fabio Quartararo 10e.
Allez, on passe au football maintenant, la 26e journée de Ligue 1 et tous les regards seront tournés vers la rencontre de clôture demain matin.
Et oui, pas n'importe quelle rencontre, puisque en clôture de cette 26e journée à 6h45, heure de Nouméa, on aura le droit à un classico. Le Paris Saint-Germain recevra l'Olympique de Marseille. Mais avant ça, 4 matchs au programme dans la nuit, Lyon-Le Havre à 1h, puis à 3h15, Brest-Rennes, Strasbourg-Toulouse et un duel de très mal classé entre Montpellier dernier et Saint-Etienne avant-dernier. Pour rappel, ce matin, Nantes a dominé Lille 1-0. Même score pour Lens face à Rennes et puis Monaco a battu Angers 2-0. Hier, en ouverture, Nice et Auxerre se sont quittés dos à dos, 1-partout.
L'actualité du cyclisme avec la dernière étape du Paris-Nice, mais aussi Tirreno-Adriatico, c'est en Italie.
Sur le Paris-Nice, le peloton s'élancera de Nice juste après minuit pour une boucle de 120 km avec 3 cols de première catégorie au programme. C'est toujours l'Américain Matteo Jorgensen qui est en tête. En Italie, cette fois, c'est l'Espagnol Juan Ayuso qui domine le Tirreno Adriatico avant la dernière étape prévue ce soir, 147 km de plat. Ça se passera autour de San Benedetto del Tronto.
Vous écoutez Radio Rythme Bleu. Au Mont d'Or, c'est le 100.4.
Le sport côté calédonien maintenant avec du football et on vous l'annonçait ce matin, la sélection accueille un nouveau joueur pour disputer la demi-finale des qualifications à la Coupe du Monde.
Et oui, il s'agit de Joshua Sotirio. Il est né à Sydney de parents calédoniens et attaquant professionnel de 29 ans. Il réalise l'essentiel de sa carrière en Australie. C'est forcément un atout offensif de plus pour le coach Johan Sidaner qui a dévoilé la liste définitive des 23 cagous qui seront du déplacement en Nouvelle-Zélande, qui sont même du déplacement puisqu'ils sont partis ce matin depuis l'aéroport de la Tontuta. Ils affronteront Tahiti vendredi prochain. Ce sera à 13h en demi-finale des qualifications à la Coupe du Monde. 12 joueurs évoluent sur le territoire, 9 jouent en métropole et puis 2 sont professionnels à Bizergeno, au Beitar Jérusalem en Israël et Joshua Sotirio qui joue donc en Australie. La délégation calédonienne, je disais, s'est envolée ce matin et pour rappel, ils ont affronté à 2 reprises Tahiti en 2023. Une fois, ils ont gagné 2-0. Une fois, ils ont perdu 2-1.
Et puis des résultats en Calédonie, plusieurs compétition qui était organisée ce dimanche.
Clap de fin d'abord sur le Swim and Run Volvic qui se déroulait toute la matinée le long des baies de Nouméa. Plusieurs parcours qui enchaînaient de la course à pied et de la natation sur l'épreuve XL d'abord de 39,3 km. La victoire est revenue à Julien Delrieux de l'Est, Trimondor associé à Alexandre Bressy. Ils avaient déjà emporté l'année dernière à Yaté dans le Grand Sud. On les écoute.
C'est la troisième participation avec Alex juste à côté. C'est mon binôme de Swim Run. Et un binôme gagnant. C'est un gros effort effectivement, surtout qu'en fait par rapport aux contraintes du terrain, ils ont fait des longues portions de natation. Et alors je suis pas un super nageur, l'avantage c'est que mon binôme est lui un très très bon nageur et c'est lui qui a fait l'effort en natation, c'est lui qui m'a tiré. À l'inverse, je suis un meilleur coureur que lui, donc je l'ai pas tiré, je l'ai encouragé parce qu'il est quand même bien plus costaud que moi.
La nouveauté c'était la nage en piscine. Donc un peu compliqué la première nage en piscine avec le monde, mais après ça l'a fait. Et on est bien parti, on a réussi à tenir. J'avoue, sur la fin, là, ça commençait vraiment à être compliqué. Là, on a bien géré, c'était pile poil ce qu'il fallait. Quoi.
Julien Delrieux et Alexandre Bressy qui s'imposent donc en 4h40 d'effort. Sur le parcours L de 26,1 km, la victoire est revenue à Nicolas Braque et Jérémy Pébelier. Sur le 12,5 km, c'est Noah Bonhomme et Capucino qui l'ont emporté. Pour les amateurs de course en pleine nature, le rendez-vous était donné à la fois ce matin avec le Pocken Trail. Sur le grand raid de 17 km, c'est Antoine Barguin qui l'emporte en 1h51 et 13 secondes devant Ludovic Lanceleur et Yoran Secolini. La première femme, Angélique Plair, termine en 2h07 et 23 secondes. On écoute le grand gagnant, Antoine Barguin, à l'arrivée.
On a débuté calmement en 12h et puis après, on a été tous un peu surpris de l'exigence du parcours. Beaucoup de techniques avec des brousses assez hautes et puis une montée très très dure. C'est assez exigeant. Voilà. Donc après, on a pu profiter agréablement du paysage et puis se retrouver même au-dessus des montagnes en début de matinée. Donc voilà, c'est vraiment magnifique aussi. Et puis ça fait du bien de venir aussi sur un nouveau parcours à la fois. C'est pour ça qu'on est venu là.
Et sur le petit raid de 9 km, c'est Jean Garry qui s'est imposé en 42 minutes et 23 secondes devant Corentin Bobichon et Benjamin Legrave. La première femme, Claire Noël, termine 19e en 53 minutes et 33 secondes. Enfin, côté cyclisme, on rappelle que c'est Bastien Lemaître qui a remporté hier le Grand Prix de la ville de Dumbéa. Sur la short race, c'est Ethan Dacremont qui s'est imposé.
Merci beaucoup Léo Fichou, il est 18h passé de 13 minutes. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, nous avons évoqué dans la première partie de ce journal les précipitations qui touchent une grande partie du territoire depuis ce vendredi. Quelles sont les nouvelles pour la météo à venir dans les prochaines heures, Maxime ?
Eh bien, ça ressemble tout à fait à ce qu'on a entendu tout à l'heure. Cette nuit, temps encore instable et pluvieux avec parfois quelques orages même sur le sud de la côte est, la pointe sud et aussi au Loyauté. Sur le nord-est et la pointe nord, les éclaircies seront présentes mais n'empêcheront pas. Quelques ondées sur l'ouest, de belles éclaircies pourront se développer. Le vent s'orientera au secteur est et faiblira autour des 10 nœuds, voire encore 15 nœuds sur la pointe nord. Il deviendra localement variable faible sur l'ouest et les températures seront élevées et se maintiendront ce soir entre 22 et 25 degrés, voire 26 degrés sur la pointe nord. Demain matin, belles éclaircies sur l'ouest. Ailleurs, le ciel sera très nuageux à couvert. Des averses parfois soutenues circuleront encore sur l'est, la pointe sud et les Loyautés. Peu de vent sur l'ouest et ailleurs, l'alizée d'Est se maintiendra autour des 10 nœuds seulement.
Merci beaucoup Maxime pour la météo à la technique. 18h15, c'est la fin de ce journal.